Donc merci beaucoup à toutes et tous de vous être prêtés à cet exercice difficile de synthèse de vos propres ateliers. Et on a le plaisir maintenant d'accueillir, pour conclure cette journée, Arnaud Bontemps, donc cofondateur du collectif Nos Services Publics, dont a parlé Christine Carrier ce matin en ouverture de la journée. Donc voilà, nous l'accueillons dès maintenant. Et à la suite de cette conférence, à 17h, celles et ceux qui se sont inscrits à la visite de l'exposition Posy Simmons, on se retrouve juste à la sortie de la salle et on ira ensemble à la bibliothèque. Merci à tous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'abord de l'invitation du collectif pour conclure cette journée. C'est pour nous extrêmement intéressant. Et puis j'ai pu assister à la fin d'un atelier et puis aux restitutions. Et je vous en dirai un mot. J'ai l'impression que ça donne beaucoup de pistes pour réfléchir ensemble sur ce que vous proposez, quelques éléments de réflexion sur le sens du service public, sur ce que ça peut, sur le sens du service public, et puis d'ouvrir sur peut-être d'autres services publics que les bibliothèques. Je m'appelle Arnaud Bontemps, je travaille à la Cour des comptes, je contrôle d'habitude les services publics dans mon métier, et en 2021, avec un groupe de collègues de tout secteur, on a créé un collectif qui s'appelle Nos Services Publics, qui est parti d'un sentiment de perte de sens de beaucoup d'agents, y compris à la sortie de la crise du Covid-19, sur beaucoup d'agents des services publics, sur le sens de nos missions, et qui avaient envie de revenir à l'origine, à la source de cette perte de sens, parce qu'on était très convaincus qu'elle n'était pas individuelle ou qu'il ne suffisait pas d'aller voir un psy, mais qu'en revanche, c'était très utile d'essayer de déconstruire les mécanismes de management, l'organisation du travail, les orientations générales ou budgétaires des services publics pour expliquer et peut-être politiser un peu cette perte de sens. Aujourd'hui, on se donne très rapidement un ou deux grands objectifs. Le premier, c'est d'essayer de proposer une vision des services publics alternative à la vision... Hop là, je voulais vous... Ça, c'est pour présenter le collectif. Une vision des services publics alternative à la vision traditionnelle ou dominante des services publics. Et puis le deuxième, c'est d'en parler, de la construire et de la diffuser très largement. Je vous parlerai ici de deux principaux travaux qu'on a menés. Un, il y a 2 ans et demi, je ne me souviens plus bien des dates, qu'on a publié en septembre 2021, une grande enquête sur la perte de sens menée auprès de près de 5000 agents publics, dont je voudrais vous dire un mot. Et je vous parlerai d'un deuxième travail qui vient de paraître en librairie la semaine dernière, qui est ce qu'on appelle le rapport sur l'état des services publics, en tout cas la première édition de ce rapport, et qui, du coup, on fait un petit peu la promo en ce moment. Tout d'abord, je voudrais juste vous revenir un tout petit peu sur quelques éléments que j'ai entendus qui m'intéressent particulièrement dans vos conclusions, vos retours d'atelier. Et puis même en échangeant un petit peu avec les organisatrices de la journée sur le sens que vous voulez lui donner. D'abord, je crois que c'est intéressant, et c'est pas rien de le dire, j'ai vu dans toutes les expérimentations, les projets que vous nous avez présentés, que les services publics sont innovants, extraordinairement innovants. C'est évidemment l'antipode, enfin évidemment, je ne sais pas, peut-être ici oui, mais à l'extérieur pas tant, l'antipode du fonctionnaire fainéant dont on a trop souvent écho. Et je trouve ça incroyable de voir ce dynamisme, de voir que vous vous réunissez toute une journée pour échanger sur ces pratiques. Le deuxième élément auquel ça me fait écho, c'est que je trouve que toutes les démarches que vous posez, y compris des questions sous-jacentes, interrogent sur le rôle politique qu'a chacun, chacune d'entre nous, agents publics, à son niveau, son petit niveau professionnel. Je l'ai un petit peu entendu, notamment quand notre collègue parlait de « faut-il arrêter de plastifier les documents ?» Je trouve ça intéressant. Alors, vous nous avez dit que finalement vous n'en aviez pas tant parlé que ça, mais je trouve ça intéressant comme réflexion, c'est-à-dire que derrière il y a quand même l'idée que dans nos pratiques quotidiennes, nos pratiques quotidiennes ont un sens, ont des significations au-delà du réflexe ou de la routine, qu'on peut les interroger et même que c'est à nous de nous interroger parce que personne d'autre n'ira s'interroger sur faut-il ou non plastifier les documents. Et ça rejoint une conviction qu'on a globalement au sein du collectif, que du préfet au guichet, chaque agent, chaque manière d'agir a un sens profondément et que c'est à nous de nous réapproprier le sens, la réflexion et notre attitude individuelle et collective vis-à-vis des agents, des usagers des services publics, des citoyennes et des citoyens. J'ai entendu un troisième élément à la toute fin par le collègue de Paris qui disait « Réfléchir sur la pluralité ne doit pas nous empêcher parfois, et c'est parfois nécessaire, de demander des moyens. » Et je trouve ça très intéressant parce que ça pose une question qu'on s'est beaucoup posée, c'est la question des injonctions contradictoires. Et je l'entends très fortement, en tout cas, en réfléchissant ou en suivant les réflexions sur la frugalité. Et je l'ai vu partout, cette question, est-ce que frugal, c'est de l'austérité budgétaire ? Est-ce que c'est la même chose ? Peut-être qu'en part... Bref, un questionnement très fort. Et en fait, ce questionnement, il fait très fortement écho à celui qu'on a retrouvé, nous, avec le collectif de nos services publics, dans les résultats de notre enquête sur la perte de sens. Je vous dis, les résultats ont été publiés en septembre 2021. On a posé simplement 4 ou 5 questions à 5000 agents publics en ligne et on a surtout recueilli plus de 3000 témoignages qui faisaient des fois 10 mots, qui faisaient des fois 10 paragraphes. De collègues, infirmiers, infirmières, enseignants, administrateurs territoriaux, de partout, commissaires de police. Un grand nombre, 2500 ont accepté que ces témoignages sont publiés. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet derrière. Et donc, c'est pas un sondage, c'est pas représentatif, mais vous allez voir que je crois que les résultats sont extrêmement significatifs. On a posé, je vous disais, 4 questions et puis une question ouverte. À nos collègues. La première question qu'on a posée, c'est pourquoi êtes-vous, pour quelles raisons avez-vous rejoint le service public ? Les résultats vous sont présentés ici. C'est assez frappant. C'est que le cliché du fonctionnaire, encore une fois, qui est que c'est pour la stabilité de l'emploi, éventuellement l'équilibre vie privée-vie pro. Alors, ce sont des motifs de sélection, évidemment ou pas, encore une fois, mais ce sont manifestement le cas, mais qui passent bien derrière des réponses. Là, ils pouvaient en cocher autant de réponses qu'ils le souhaitaient. Bien derrière deux motifs, le service de l'intérêt général et un attrait pour un métier particulier. En fait, attrait pour un métier particulier, on le retrouvait notamment dans l'éducation ou dans la santé, et service de l'intérêt général dans d'autres domaines dans lesquels le métier est un tout petit peu moins identifié. C'est intéressant. Vous aurez remarqué que peu de gens sont venus dans le service public pour l'item de la rémunération. À la fin de notre... Je vous le tease un petit peu. La question juste après, mais que je n'ai pas choisi de vous montrer juste après, c'est pour quelles raisons restez-vous dans le service public ? Et on a posé les mêmes questions. Un des résultats les plus frappants dans notre enquête sur la perte de sens, c'est la quatrième question qu'on a posée. On leur a proposé une affirmation et on leur a demandé si cette affirmation, ils se l'étaient déjà dite, ou s'ils ne s'étaient jamais dites, s'ils étaient rarement dites, s'ils se la disaient régulièrement ou s'ils se le disaient très fréquemment. Et peut-être avant de vous montrer les résultats, je voudrais peut-être bien tester, savoir ce que ça donne ici dans cette salle. L'affirmation était « Cela n'a aucun sens » ou « Si ça a un sens, ce n'est pas ce pourquoi je suis venu dans le service public. » Est-ce que vous êtes déjà dit ça ? Jamais, rarement, est-ce que vous le dites régulièrement ou est-ce que vous le dites très fréquemment ? Et je vous propose de lever la main pour celles et ceux qui ne se sont jamais dit ça. Merci. Je vous propose de lever la main celles et ceux qui se disent rarement ça. Très intéressant. Je vous propose ceux qui se le disent régulièrement. Merci. Et ceux qui se le disent très fréquemment. Très intéressant. Merci. Vous allez voir que les résultats globaux en septembre 2021 sont notoirement plus pessimistes que le public de cette salle. Puisque les personnes qui nous ont dit... Bon, je vous montre tout de suite les résultats. C'est absurde, ou si c'est un non-sens, ce n'est pas celui pour lequel je me suis engagé. Je ne me suis jamais dit ça, 3%. Je me le dis rarement, 18%. Et je me le dis régulièrement ou très fréquemment, 80% des répondants. Il y a probablement un biais de sélection, il y a plein de choses, encore une fois, ce n'est pas représentatif. Mais on s'est dit qu'avec la 5000 personnes interrogées, ça signifiait quelque chose sur l'état de nos services publics vu par le sens que les agents mettent dans leur métier au quotidien. On a essayé de creuser et je crois qu'une des explications les plus intéressantes vient quand l'on parle de témoignages. Parce que dans les témoignages, revient rarement exprimé, mais en permanence dans les exemples, l'idée d'injonction contradictoire. On a dépioté, je vous disais, 3000 témoignages. Et on identifie 5 principales raisons, on les a listées là, c'est peut-être pas le plus important, le plus intéressant, c'est de vous en citer quelques-uns, bon, il y en a quelques-uns qui m'ont frappé. On avait une professeure d'anglais qui nous disait « Moi, on me demande de donner priorité à l'interaction orale et de faire cours à une classe de 35 élèves. » On avait un kinésithérapeute dans le PACA qui nous disait « On me demande de rééduquer à la marche quelqu'un qui sera contentionné le reste de la journée. » On avait un administrateur territorial qui nous disait « On me demande à l'automne des idées de nouveaux projets, et puis 6 mois plus tard, des nouvelles pistes d'économie. » Et on retrouvait ça dans tous les secteurs, chez les commissaires, etc. Tout, encore une fois, sous-jacent, cette lancinante question de l'injonction contradictoire. Et donc l'impression de servir autre chose que l'intérêt général, évidemment des questions de poids de la structure, de manque de moyens qui revenaient fréquemment, une vision des services publics qui n'était pas celle portée par les agents, un manque de reconnaissance notamment. Autre question qu'on a posée, c'est quels sont les problèmes ? On a essayé de comprendre s'il y a dans cette part de sens, quels sont les problèmes que vous rencontrez ? Et là aussi, c'est très frappant. Les conditions de travail, la rémunération, le manque d'opportunités de carrière reviennent. C'est un bloc important entre 30 et un peu plus de 40% de répondants. Mais le premier motif, là aussi cité par les répondants, ils pouvaient cocher autant de cases qu'ils le souhaitaient, ce sont des blocs qui touchent au sens de leur mission. Manque de moyens, désaccord avec les orientations stratégiques, perte de sens de la mission qui est confiée, et tous ces items ont recueilli plus de 50% des réponses sur notre panel de répondants. À noter que ceux qui ne rencontrent pas de problème sont probablement les mêmes que ceux qui sont venus pour la rémunération. Ils sont en tout cas dans des proportions un peu similaires. Et dernier point, je vous le disais, on leur a demandé, après leur avoir demandé pourquoi ils sont venus au sein du service public, pourquoi ils restent au sein du service public. C'est intéressant, on retrouve toujours le service l'intérêt général et l'intérêt pour la mission qui est confiée. Mais regardez les chiffres ici, on est à un peu plus de 50%, comment je reviens en arrière. Ici, on est, alors c'est intéressant, entre 50 et 70%. En fait, ce qui est frappant, c'est que si on prend les personnes qui sont venues pour l'intérêt général, uniquement cette barre-là, il n'y en a plus que des 2/3 d'entre elles qui restent pour le service de l'intérêt général. De la même façon, pour les personnes qui restent pour l'intérêt de la mission, en tout cas pour, qui sont venues pour un métier particulier, il n'y en a plus que 50, il n'y en a plus que les 2/3 d'entre eux qui restent, et donc 1/3 qui abandonnent, entre guillemets, qui ne restent pas pour l'intérêt de la mission qui leur est confiée. Puis un dernier motif, pas extrêmement réjouissant, mais assez inquiétant même, c'est que la difficulté de changer arrivait comme le 3e motif pour rester dans le service public, et arrivait même comme le 1er motif pour les professionnels de l'éducation nationale qui répondaient à notre enquête. Je vous passe les détails, on en a fait, vous pouvez tout retrouver en ligne sur notre site internet, y compris les témoignages, mais je voulais vous partager ça parce que c'est spontanément ce à quoi j'ai pensé quand j'ai entendu vos éléments sur la frugalité, l'austérité budgétaire, ou que j'ai écouté un petit peu ces réflexions, que j'y ai réfléchi en préparant cette intervention. C'est que parfois, c'est Parfois, évidemment, et vous nous l'avez montré, je trouve, de manière assez brillante, la contrainte peut être extrêmement créative. On le sait tous et on l'a tous expérimenté. Parfois, la contrainte est aussi juste une contrainte. Et elle a aussi un sens, elle nous limite et limiter les moyens et les capacités à faire des services publics dans la période, ça a un sens. Et c'est la deuxième chose que je voudrais vous partager dans cette introduction de conclusion. Parce que, en fait, je crois qu'il y a un motif. En tout cas, avec le collectif, on était extrêmement convaincus qu'il y avait un motif presque d'espoir ou d'engagement très fort dans cette enquête sur la perte de sens. C'est que quand on dit perte de sens, on doit aussi entendre recherche de sens. Et je pense que c'est un des paradoxes. Je crois que, là je l'ai posé de manière un peu caricaturale, est-ce que la perte de sens a un sens ? Je crois que oui, en fait. Je crois qu'elle dit cette recherche continue par les agents publics d'une mission qui a d'un impact sur la société. Et elle fait tomber une barrière, la barrière un petit peu factice dont je parlais tout à l'heure, entre les fonctionnaires fainéants d'un côté et les usagers relous de l'autre. En fait, quand on parle sens du service public et qu'on parle problème que rencontrent les services publics, on se rend compte que nous, agents, on a régulièrement les mêmes problèmes, on dénonce les mêmes problèmes que dénoncent en face de nous les usagers des services publics. Que nous, parents d'élèves, on dénonce souvent les mêmes problèmes que ceux que dénoncent les enseignants. Et je crois qu'il y a, quand tombent ces oppositions, il y a de fortes convergences ou des réflexions et des constructions d'engagement extrêmement fructueuses en potentiel. Je vais rester là pour l'instant. Je voulais vous dire tout ça parce que je crois que, et on en est encore une fois convaincus dans le collectif, nos services publics, les services publics au XXIe siècle ont un sens très profond, de la même façon que leur insuffisance en a un. Le sens, pour le dire très clairement, c'est répondre en commun à des besoins sociaux. Dire ça avec cette simplicité, ça paraît peut-être une évidence. Le service public, c'est mettre de l'argent en commun pour répondre à des besoins. Et ça donne l'école publique, ça donne l'hôpital public, ça donne le service public de la justice, ça donne évidemment les bibliothèques, le travail social, etc. Néanmoins, dire qu'on veut des services publics qui répondent aux besoins des gens, ça implique deux choses, je crois, très importantes. La première, c'est qu'en réalité, je suis convaincu que c'est un renversement total de perspective par rapport à la manière dont on construit aujourd'hui, généralement, les services publics. En tout cas, c'est de mon expérience, et puis d'ailleurs, je parle à la première personne singulière, mais de celle de beaucoup de personnes, et de la majorité des membres du collectif, quand on me demande de construire des politiques publiques, on ne me demande pas d'abord de répondre aux besoins des gens, on me demande d'abord de respecter une enveloppe. On me demande d'abord d'agir dans un... On me rappelle d'abord le cadre avant de me rappeler les objectifs, avant de me rappeler ou avant de me demander les besoins auxquels on devrait collectivement répondre. Donc ce serait un renversement de perspective total. Le deuxième élément, c'est que parler de sens des services publics ou parler de services publics qui doivent répondre aux besoins, ça nécessite de se poser concrètement la question des besoins. Et donc, c'est ce que l'on a essayé de faire dans ce rapport sur l'état des services publics dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure. Ce rapport, il essaye de faire l'historique sur 10 à 40 ans des grands services publics de santé, d'éducation, de transport, de justice et de sécurité, de fonctionnement et leur fonctionnement et le financement des services publics, en partant des besoins de la population. Et ce qui raconte une histoire très différente de l'histoire, et puis ça, vous allez voir que ça renouvelle les questions qu'on se pose. En clair, la question « faut-il mettre plus ou moins d'argent dans les services publics ?» peut être posée de manière très différente quand on y introduit la notion de besoin. Ce que l'on voit en faisant cette archéologie des services publics, peut-être pas archéologie, mais cette histoire récente, c'est que les besoins de la population ont augmenté ou ont évolué très fortement, et je reviendrai sur ce que ça veut dire, et beaucoup plus que les moyens des services publics. Et que dans cet écart, vous le voyez croissant, se trouvent trois choses. Ça, c'est le schéma qui résume nos 300 pages de rapport. Un, ce qu'on a appelé la désocialisation de la réponse aux besoins. En clair, s'il n'y a pas de public, répond aux besoins un secteur privé. Deux, des inégalités. Et trois, une rupture avec, entre les services publics et les agents d'une part, entre les services publics et la population d'autre part. Je vais revenir assez rapidement là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit les besoins de la population augmentent, évoluent, etc. Ben, on a essayé de reprendre des grands faits sociaux marquants des dernières décennies sur des grands secteurs. Je voudrais commencer par celui-là. Celui-là, c'est l'éducation. C'est frappant, c'est le taux d'une classe d'âge qui atteint le baccalauréat. Il y a 40 ans, il y avait un jeune sur quatre qui allait jusqu'au bac. Il y a 50 ans, un jeune sur cinq. Aujourd'hui, 4 sur 5. C'est évidemment une évolution massive qui sollicite très fortement les services publics, d'ailleurs qui est aussi un résultat des services publics sans lesquels on n'aurait pas obtenu ce résultat. De la même façon, dans le secteur de la santé, on pourrait se dire qu'est-ce que c'est les besoins de santé ? C'était horriblement complexe et il y a des papiers de recherche entiers sur la question. On pourrait se dire qu'ils évoluent quand la population augmente. La population a augmenté de 5% dans les 10 dernières années. On pourrait se dire qu'ils évoluent quand la population de personnes âgées augmente. Le nombre de plus de 75 ans a augmenté de plus 12% dans les 10 dernières années. Et on pourrait se dire qu'ils évoluent quand le nombre de malades chroniques augmente, qui a augmenté de plus d'un tiers dans les 10 dernières années. Plus de 6 millions de personnes. Aujourd'hui, c'est une personne sur 6 en France. Plus de 3 millions de plus et une personne sur 6 aujourd'hui en France qui est atteinte de ce qu'on appelle une ALD dans le jargon, une affection de longue durée, une maladie chronique ou un cancer. C'est ça, cette courbe des besoins qui augmente. Mais on pourrait le prendre dans le secteur des transports. Aujourd'hui, on parcourt 5 fois plus de kilomètres qu'il y a 60 ans nos grands-parents, etc., etc. Face à cette augmentation des besoins, les moyens des services publics, eux, ont augmenté, mais beaucoup moins. Il y a plus de fonctionnaires, il y a plus de budget aujourd'hui qu'il y a 20 ans. En revanche, beaucoup moins vite que les besoins. Ici, vous voyez juste un exemple, la part des agents titulaires de la fonction publique dans l'emploi total. Donc il y a un petit peu plus de fonctionnaires, par contre, il y en a moins que proportionnellement dans l'ensemble de la population. Si on parle de transition écologique, on voit que là, le besoin ou l'insuffisance des moyens est encore plus marqué. En orange, vous avez la courbe des besoins d'investissement climat en 2030. Selon la stratégie du gouvernement, il devrait y avoir plus de 25 milliards d'investissement climat en plus qu'aujourd'hui, en bleu, la courbe des moyens actuels en 2021. Voilà ce que ça veut dire quand on dit que les moyens augmentent insuffisamment. Quelles sont les conséquences ? Je vais essayer de ne pas vous assommer et d'aller un tout petit peu plus vite, mais la première, c'est celle qu'on appelle la désocialisation de la réponse aux besoins. C'est très concret. C'est, par exemple, dans l'école, une concentration croissante des catégories sociales très favorisées culturellement dans les établissements privés sous contrat, dont on a récemment un petit peu entendu parler. Vous voyez que la composition sociale des collèges ici publics est restée stable. Et c'est comme si l'intégralité du nombre d'enfants de diplômés supplémentaires dans les 20 dernières années avait été captée par le secteur privé sous contrat, qui est passé, lui, de 29% enfants de parents diplômés, pour le faire bref, en 2003, à 40% en 2021. Et en fait, ce qui est frappant, premier point frappant, c'est que les établissements privés sous contrat sont financés par l'argent public, à 75% environ. Le deuxième point marquant, c'est que ce qu'on appelle cette désocialisation de la réponse aux besoins se retrouve dans tous les secteurs, de manière à chaque fois un petit peu différente, mais se retrouve de manière très, très frappante. Dans le secteur de la santé, ce n'est pas exactement la même expression, ce n'est pas les enfants de diplômés, c'est que les établissements privés à but lucratif sont concentrés sur les segments les plus rentables de l'activité et les plus programmables, ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire. Vous rentrez le matin, vous sortez, et entre les deux, vous avez une prothèse de hanche ou une opération de la cataracte. Les établissements privés à but lucratif réalisent 75% de ces actes de chirurgie d'une durée de moins d'un jour
de l'ensemble de ceux qui sont réalisés en France. À l'inverse, les établissements publics, eux, gardent le moins programmable, les urgences, le plus lourd, la réanimation. Eux représentent les deux tiers de la prise en charge des hospitalisations en médecine de plus d'un jour. Quand ça va vraiment très mal, vous allez plus rarement à la clinique et plus souvent au CHU, de manière très, très concrète. Ça, c'est un point massif, majeur, et encore une fois, on le retrouve dans tous les secteurs. Il n'y a qu'à penser à la sécurité privée, qui, il y a 10 ans, n'existait quasiment pas. Et aujourd'hui, vous avez des vigiles absolument partout. Première conséquence, désocialisation de la réponse aux besoins. Deuxième conséquence, un accroissement des inégalités. Ici, face au service public, c'est assez impressionnant. Vous avez une carte de la répartition ou de l'évolution de la densité de médecins par département dans les 10 dernières années. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez dans bleu, ça augmente, en rouge, ça baisse. Surprise, à Paris, c'est bleu, en Seine-Saint-Denis, c'est rouge. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que, et ça ne se voit pas dans la carte, parmi les départements en bleu, donc ceux qui ont vu leur densité médicale augmenter, nombre de médecins par habitant, il y en avait 10 qui étaient déjà au-dessus de la moyenne, et donc qui ont vu leur population de médecins augmenter, alors que dans les départements qui ont vu leur population de médecins par habitant diminuer, il y en avait 48 qui étaient déjà en dessous de la moyenne. C'est ça, l'aggravation des inégalités face aux services publics. Dernier élément, c'est la rupture entre les services publics et la population d'une part. Question de la confiance assez lancinante, on pourrait même prendre comme exemple les questions de taux de participation électorale, par exemple, qui suivent à peu près cette même courbe, qui n'a pourtant rien à voir. Cette courbe, c'est la courbe du nombre de candidats présents au concours, ici, de la fonction publique d'État. Et vous voyez que depuis 25 ans, la courbe n'a fait quasiment qu'une seule direction, c'est vers le bas. Le nombre de candidats a été divisé par 4 en 25 ans. La première raison, c'est la baisse du nombre de postes offerts. Il y a moins de postes, donc il y a moins de candidats. Mais ce qui est frappant, c'est que la deuxième courbe, la courbe bleue de sélectivité, a aussi baissé. C'est-à-dire que le nombre de candidats a baissé plus rapidement encore que le nombre de postes offerts dans les services publics. Voilà en très bref, je crois ce que je voulais vous raconter sur les services publics, le sens que ça peut avoir, le sens des injonctions contradictoires. Et ici aussi, pour essayer de changer de perspective ou de l'ouvrir par rapport à la question de la frugalité, de qu'est-ce qu'elle peut vouloir dire dans cette évolution globale. Et peut-être en concluant, par une manière différente de poser les questions dans le débat public, en tout cas c'est celle que l'on retient à l'issue de ce rapport, c'est qu'on n'a plus envie de se poser la question de faut-il plus ou moins d'argent dans les services publics, ou en tout cas on a envie de se la poser un peu différemment. On a envie de se dire que les besoins de la population augmentent, on l'a vu, augmentent fortement et vont continuer à augmenter, ne serait-ce que du fait de l'impératif climatique. Est-ce qu'on doit répondre collectivement à cette augmentation des besoins de la population, auquel cas c'est par le service public et la sécurité sociale, ou est-ce qu'on y répond individuellement, chacun, chacune, le cas échéant, en recourant au secteur privé? C'est peut-être une autre manière de poser la même question, mais autrement plus intéressante, qui a autrement plus de sens, et une de nos convictions, c'est que si on pose la question des moyens des services publics en reposant leur sens, c'est-à-dire répondre en commun aux défis de la société sur les besoins, on change l'appréhension qu'on a au sein des services publics et au sein de la société. Avec peut-être terminer par cette particularité, c'est que le système actuel est n'est même pas dans cette binarité réponse commune en mettant en commun de l'argent pour des services publics versus réponse privée. Elle est dans un développement des réponses privées, mais elle-même très financée par de l'argent public. On a le beurre, ou on n'a ni le beurre ni l'argent du beurre, peut-être qu'on pourrait le dire comme ça. En tout cas, ça pose de grandes questions. Je m'arrête là. Je crois qu'on a, je ne sais pas combien de temps on a, j'étais plus long prévu. On a 15 minutes, donc on a un peu de temps si vous voulez intervenir, me contredire, poser des questions, exprimer vos désaccords et pour échanger. Alors, il y avait une main au fond. Ah, super, merci beaucoup.
Il y a les micros. Ouais.
Pardon. Mais moi, je voulais juste savoir ce rapport de votre collectif Nos Services Publics. Quel est ensuite son destin ? Qui le lit ? Qu'est-ce qu'on en fait ?
En peut-être plusieurs questions, ce sera plus... Y compris, vous pouvez rebondir les uns sur les autres.
Merci, vous avez dit que vous travaillez pour la Cour des comptes. Je voulais savoir s'ils avaient été destinataires du... Donc c'est un petit peu la même question, mais vraiment côté Cour des comptes. Est-ce qu'ils ont été destinataires de votre rapport ? Et si oui, quel accueil ont-ils réservé à vos propos ?
S'il n'y a pas d'autres questions à ce stade, je peux répondre à ces deux questions. Quel usage du rapport on fait ? Je crois que le... Ou qui lit le rapport ? Probablement les 300 pages, pas grand monde. On va pas se mentir. Non pas que ce soit pas intéressant, et je pense que je suis une des personnes qui les a lues, relues, modifiées dans tous les sens. Mais à la limite, c'est parce que en fait, c'est comme une encyclopédie. Qui lit une encyclopédie ou qui lit un dictionnaire, c'est pas tant la question. On l'a vraiment construit comme une sorte de document de référence qui essaye de proposer une vision et une lecture des services publics. Pour vous le faire en bref, chaque chapitre, santé, éducation, transport, est découpé en 6 sous-parties. Commence par les besoins, et donc par définir qu'est-ce que c'est que des besoins d'éducation, qu'est-ce que c'est que des besoins de transport. Intéressant, qu'est-ce que c'est que des besoins de transport ? C'est de se déplacer, on voit, comme je vous le disais tout à l'heure, on se déplace de plus en plus, et c'est probablement aussi de ne pas éclater la planète, et donc ne pas brûler trop de pétrole. Or, les déplacements, aujourd'hui, se font à 80%. 80% des kilomètres parcourus en France le sont en voiture. Et donc, ça pose énormément de questions. Comment est-ce qu'on fait ? D'où ça vient ? Etc. Donc, c'est proposer cette lecture des besoins et puis de derrière dérouler. Il y a en fait plein de niveaux de lecture. Il y a le niveau de lecture intégral du rapport. Et ça, seulement, je pense, qui le fait ? Ben, des gens particulièrement intéressés, curieux. Des journalistes, peut-être des étudiants ou des assistants parlementaires, peut-être, collaborateurs d'élus. Je pense que c'est les principales personnes, des chercheurs et chercheuses, qui le lisent in extenso. Mais chaque chapitre est résumé en une synthèse de 4 pages, déjà fortement plus accessible. L'ensemble des chapitres est résumé dans une synthèse de 10 pages. La synthèse de 10 pages est résumée dans plein d'articles de journaux qui nous ont repris, ou des petites interventions dans les médias. Si vous avez écouté la matinale de France Culture ce matin, vous pouvez retrouver une de nos collègues qui intervenait. Et puis, encore une fois, on peut re-résumer ça en un schéma. Et donc, en fait, il y a plein de lectures possibles de ce rapport et de niveaux de lecture, et je crois que c'est ce qui en fait une des forces. Quel est son usage ? Pour nous, son utilité, c'est à la fois de commencer à constituer une base pour, je le disais en introduction, une vision alternative des services publics. On est les premiers à dire on souhaiterait des services publics qui répondent aux besoins. On s'est dit dans ce rapport, chiche, qu'est-ce que ça veut dire des besoins ? Essayons de les définir et de commencer à proposer cette autre logicielle. Le jour où on aura un débat sur quels sont les besoins qui doivent être pris en charge par le service public, et quels sont les besoins qui sont en trop dans la société, qu'il faudrait réguler, qui sont superflus, etc. Je crois qu'on aura fait des pas démocratiques massifs. On se posera des vraies questions. Et donc, le pari, c'est de se dire, on va faire une proposition, et si elle est discutée à cet endroit-là, c'est le bon niveau de discussion, et c'est exactement le type de discussion qu'on souhaiterait avoir dans l'arène démocratique. Voilà qu'ils sont nos premiers lecteurs, et donc nos premiers lecteurs, c'est en tout cas de nos synthèses, c'est les quelques dizaines de milliers de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, les lecteurs des médias qui ont repris ce rapport, et ils étaient quand même assez nombreux. Est-ce que la Cour des comptes en a été destinataire ? Oui, je me souviens que
le matin même de la publication du rapport, je me suis dit, zut, j'ai oublié de prévenir mes chefs. Et donc j'étais dans un taxi pour aller dans une radio et je me suis dit, quand même. Et donc je fais un mail et vous savez, c'est le moment où vous dites, monsieur le Premier Président, vous trouverez en pièce jointe le rapport ou la synthèse de notre rapport, et puis vous oubliez la pièce jointe. Donc ils l'ont été. J'ai pas eu de remarques. En tout cas, j'ai pas eu de remarques négatives. Je crois qu'on. Ni d'ailleurs de remarques expressément positives. On a essayé d'organiser un événement de mise en débat de ce rapport au sein de la Cour des comptes. J'espère que c'est pas filmé, mais j'attends encore la réponse du secrétaire général. Donc je crois que c'est un non. Mais on l'a mis en débat dans d'autres arènes. On l'a été à l'Assemblée nationale avec de la CGT, justement des anciens de la Cour des comptes étaient là. Une députée de la France Insoumise, une députée de la majorité présidentielle, et donc essayer de le mettre en débat à destination de l'ensemble de la société. Le MEDEF s'est décommandé au dernier moment, à notre grand regret. Sincère, parce que ça m'aurait vraiment intéressé de faire débattre par la CGT et le MEDEF des constats de ce rapport. Et donc, quel accueil ? En réalité, je crois plutôt bon, parce qu'il propose une grille de lecture un petit peu décentrée, je crois très forte, très explicative, et qui, je crois, a le mérite de faire réfléchir un petit peu l'ensemble de nos collègues et agents publics et des citoyens. J'espère qu'en tout cas, on n'a pas l'intention de s'arrêter là, et j'ai jamais cru qu'en faisant un rapport, ça allait transformer la société. Donc on est en train de préparer l'édition 2024 du rapport sur l'état des services publics. On voudrait rajouter le logement, l'eau, l'enseignement supérieur, le travail et l'emploi, et peut-être que dans l'édition 2025, il y aura la culture, les forêts, l'agriculture, etc. En tout cas, un projet comme ça ne peut que gagner à s'approfondir, s'enrichir. Et justement, l'idée, c'est que si chaque année, on arrive à créer des moments de débat, à en discuter ici avec vous ou d'autres, probablement c'est ça ce qui fait petite graine, réflexion, que d'autres vont s'en emparer, vont se mettre à nous critiquer, à élaborer leurs propres morceaux. En tout cas, c'est la réelle ambition de ce rapport est là.
Bonjour et merci. Je voulais savoir si dans votre rapport 2024, vous y inclurez aussi à la question perte de sens pour les agents du service public, la lourdeur de la hiérarchie qui nous empêche d'être agiles. Parce que ça, je ne l'ai pas vu dans votre questionnaire. Et des fois, c'est ce qui peut faire fuir et les visions archaïques de nos élus.
Merci. Il y avait une question là, madame en vert, Sozic, juste derrière là.
Alors, moi, c'est pas vraiment une question. Hein. Je partage évidemment ce qui est dit dans le rapport. Je pense que tout le monde le partage, puisque nous sommes tous impactés par les baisses budgétaires. Et on constate depuis des années la casse de nos services publics. Il me semble qu'il y a un combat hein, qui s'engage partout où nous sommes pour défendre les moyens pour nos services publics. C'est pour ça, moi, cette journée, je la trouve très intéressante et inspirante sur plein de choses. Mais la discussion qu'on a eue avec des collègues, c'est à un moment donné, est-ce que la frugalité ne repose pas sur l'énergie, justement, de ces fonctionnaires qui sont pressés comme des citrons pour répondre à ces questions d'austérité. Et en plus, il faudrait que nous, on trouve les chemins innovants pour répondre à cette austérité. Donc moi, j'ai envie de lancer un appel. À mon avis, c'est une question d'unité, de l'unité de tous ceux qui pensent que les services publics sont essentiels à notre société, et repose évidemment sur le collectif, mais repose aussi sur le gouvernement et sur son désengagement depuis des années, en laissant crever les services publics, très clairement. Quand on voit que des maternités ferment, qu'il y a des gens qui se battent partout où ils sont pour que ces services-là restent ouverts, je pense qu'il y a des combats qui sont partout, et ce rapport ne fait que confirmer la situation dans laquelle on est, et on pourra débattre, mais je pense qu'il est temps d'agir. Voilà.
par rapport au collectif, parce que j'avais la question par rapport aux associations, justement, qui se multiplient en termes de force de frappe. On a nos services publics, on a le sens du service public, on a FP21, on a Traxys, on a une fonction publique pour la transition écologique. Est-ce que finalement, nous ne perdons pas une force de frappe nécessaire et indispensable dans cette multiplication d'associations et aussi en termes de visibilité, de lisibilité, de compréhension et de pédagogie pour les publics?
Bonjour et merci. Cette question est un corollaire à ce qui a été dit plus haut. Quelle place, si vous accordez une place, donc quelle place accordez-vous à la frugalité dans vos préconisations en termes de services publics ?
Je vais le reprendre. Merci. Merci pour les questions, pour les interventions. Je vais commencer par la dernière. Je ne pense pas que le mot n'apparaisse une seule fois dans les 350 pages du rapport. J'ai entendu, en tout cas dans le peu, je n'ai pas été là toute la journée, mais des acceptions différentes du terme. Alors, c'est pas impossible, il y a des acceptions différentes du terme besoin ou autre, mais à ce stade, moi, à titre très personnel, je ne saurais pas quelle boussole il nous donne pour les services publics. Je pense que, quitte à utiliser. Enfin, il y a des mots qui me parlent, celui-là peut-être, mais parce que je ne le comprends pas, hein, j'ai pas de. Peut-être parce que je n'ai pas assez travaillé. Je ne vois pas quelle boussole ils nous donnent. J'aime bien celui de besoin, j'aime bien celui de sens, parce que je crois qu'ils donnent une autre... je crois qu'ils donnent une boussole alternative et que tout en permettant à beaucoup de monde de se retrouver dedans. Mais voilà, je suis prêt, tout à fait prêt à en discuter. Dans quel ordre je prends les autres questions ? Peut-être d'abord la question de la hiérarchie. C'est une excellente question. La question de l'organisation du travail nous semblait... Alors, et on a traité dans ce rapport, dans la partie fonctionnement, les questions de conditions de travail des agents de la fonction publique, les questions de précarisation, les questions de rémunération. C'est très dur, je pense. Je pense que ce n'est pas le bon format pour traiter des questions de hiérarchie, qui me semble, ou d'organisation du travail ou de management, qu'un rapport qui essaye de construire des tendances sur pluriannuelles, sur plusieurs années ou décennies, sur l'évolution des services publics. En revanche, je pense que la question de la hiérarchie est absolument déterminante et à beaucoup d'égards. Je crois que, et spoiler tout de suite, le mois dernier, le collectif a lancé une grande enquête qu'on veut encore plus importante que celle sur la perte de sens dans les services publics, sur la hiérarchie, le management, l'organisation du travail dans les services publics. Ma conviction, c'est que c'est paradoxal. Le service public, normalement, on pourrait, je vais le dire autrement, le travail, certains nous ont dit déjà depuis plusieurs dizaines d'années que c'était qu'il y avait deux positions par rapport au travail. Il y avait ceux qui possédaient leur force de travail et ceux qui possédaient les moyens de production pour faire travailler d'autres personnes. Ce qui induit une forme de hiérarchie, d'asymétrie, de domination dans le travail très importante. Il se trouve que dans le service public, personne ne possède les moyens de production. Ou alors c'est tout le monde, et c'est une force particulière. Est-ce que pour autant, on a réussi à inventer des méthodes d'organisation plus horizontales, qui font plus confiance aux agents ? On en est très loin. Et pourtant, en théorie, le service public est détaché de l'impératif de rentabilité. Une des choses qui différencie le plus fondamentalement le service public de tout acteur privé. Et moi-même, je dirige une asso, je dis pas le privé c'est mal, simplement le privé, tout acteur privé à une condition de rentabilité. S'il n'est pas rentable, simplement à la fin de l'année ou dans quelques années, il va mourir. C'est sa condition de survie. Le service public au XXIe siècle, je pense que sa condition de survie, c'est la démocratie. Et je pense que s'il n'est pas démocratique, y compris s'il ne répond pas aux besoins des gens, je suis profondément convaincu qu'il ne survivra pas. Je crois que notre mode de fonctionnement actuel, trop souvent descendant, bêtement hiérarchique, ne permet pas de répondre aux besoins. Et donc, il faut qu'on arrive à l'interroger. C'est le sens de cette enquête qu'on a lancée. Elle commence par essayer de... On a là, en ce moment, 5, 10, 15 réunions dans des salons qui sont organisés un peu partout en France, de quelqu'un qui... Chaque personne met autour de la table 10 collègues, 10 amis, 10 camarades ou que sais-je, et prend des notes et on mutualise... On a une petite guide pour cette réunion et on mutualise nos comptes rendus. Et l'idée, c'est de se dire avec 10, 20 réunions, avec 10 personnes, on va avoir une quantité de matière qualitative énorme sur la base de laquelle on veut élaborer un questionnaire. Je pense que sur les 5 millions d'agents publics, il y a 5 millions de personnes qui sont prêtes à répondre à un questionnaire de 15 minutes en ligne à 23h30 pour parler de l'organisation de leur travail et du lien à la hiérarchie. Il faut juste qu'on les trouve. Et sur cette base-là, de construire un constat, de construire des propositions, de construire une campagne, des méthodes d'intervention dans le débat public ou auprès de nos conditions de travail qui puissent nous permettre de faire un petit peu ou progressivement changer les choses. Donc voilà le projet qu'on a lancé. Je pense que j'y crois beaucoup. Je crois que c'est une question fondamentale qui a été posée, qu'on prend exactement dans ce timing-là. Donc, n'hésite pas à venir ou à organiser une réunion dans ton salon. Ou n'hésitez pas collectivement, d'ailleurs, c'est un des gros projets que mène le collectif. Avec un autre projet, et je rebondis sur les deux dernières questions. Je disais, notre objectif, c'est de proposer une vision alternative des services publics. Et je ne le disais pas comme ça, mais je vais le dire un peu autrement. Je disais, le deuxième volet de notre ambition, très grande, c'est de rendre cette vision alternative majoritaire dans la société. Il n'y a plus qu'à. C'est évidemment énorme, et évidemment, ça ne dépend pas que du collectif. Là, en ce sens, je ne vois pas du tout, d'un mauvais œil, le foisonnement de collectifs de toutes sortes. D'ailleurs, nous-mêmes, collectifs, sommes une sorte de foisonnement par rapport à ce qui existait d'abord... avant nous, des organisations syndicales. Et je crois qu'on a des regards très complémentaires avec des organisations qui défendent avant tout les agents, donc les services publics. Et nous, on propose une vision pour les services publics et donc on parle aux agents. Je crois que ce n'est pas tout à fait pareil et ça se complète très bien. Mais je crois que ça a une vraie utilité que de multiplier les points d'intervention. Et des fois, c'est plus facile et plus intelligent ou plus pertinent de dire 10 fois la même chose depuis 10 points de vue différents en parlant que de s'écharper sur une virgule à signer le même communiqué avec 10 logos en fond de communiqué. Donc le foisonnement ne pose aucun problème dès lors qu'on arrive à avancer dans la même direction. Et ça, c'est complètement une des ambitions du collectif. On n'arrivera pas à rendre une vision alternative des services publics majoritaires juste avec nos petits bras. Je crois qu'en revanche, il y a un écosystème des services publics qui, organisé, peut le permettre. Dans cet écosystème, j'y mets 3 pôles de manière très schématique, celui de la défense des services publics, les syndicats en tête. Leur vocabulaire est celui de la défense. Il y a un pôle des centaines de milliers. Il y a un pôle de la transformation des services publics, c'est d'autres personnes. On entend un peu statu quo dans la défense. Là, on entend dans transformation, on entend un peu modernisation et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et c'est des technocrates, des designers qui ont une autre vision des services publics. Et puis, il y a un troisième pôle qui est celui de l'expression des besoins. En fait, c'est des gens qui ne prononce pas le mot service public, cette société civile qui n'utilise pas le mot, mais qui se bat pour une société qui en a besoin. C'est Oxfam, ATD Carbone, Médecins du Monde, France Nature Environnement, etc. Et il nous semble, dans le collectif, que le bon logiciel pour réinventer les services publics est au barycentre de ces 3 pôles, et que la majorité pour les porter est à l'extérieur. Et c'est en tout cas ce qu'on s'attache à essayer de construire par plein de choses, intellectuellement, en associant à la construction de ce rapport, je ne l'ai pas dit, mais des chercheurs, des syndicalistes, des technos, des militants de tous horizons. Et puis, dans un autre projet là qui arrivera en avril, que nous on appelle le Printemps des services publics, c'est un petit festival, organiser un petit festival décentralisé partout en France. Alors, ce ne sera pas Oser lire, nous c'est le Printemps des services publics, mais qui essaye de renouveler le discours sur les services publics et de mettre autour de la table tous ces gens qui se parlent insuffisamment. Je termine par là. En 2022, on a essayé de dire les services publics sont notre avenir. Et c'était ça la thématique, c'est ça que j'entends par renouveler le discours. L'année dernière, en 2023, on a dit fiers de nos services publics, c'était la thématique. Avec toutes les contradictions que ça emporte, parce qu'au quotidien, on n'est pas toujours hyper fiers du service public, qu'on soit usager ou... Mais on voulait y travailler, et d'ailleurs, on avait des super visuels très beaux, un peu flash. Fiers de préparer le monde de demain, pas fier de le faire sans moyens. Ou fier de porter le mammouth et pas fier de risquer le burn-out. Voilà, sur ce ton un peu humoristique, mais qu'on voudrait reproduire. Et en tout cas, cette année, on veut traiter de la thématique de l'universel. Parce que je pense que c'est un des défis majeurs du service public aujourd'hui et demain. C'est quoi un service public universel ? La vocation du service public, c'est l'universel. Et on le voyait, c'est une autre différence massive par rapport au secteur privé. On l'a vu quand on parlait école publique ou école privée, quand on parle clinique privée et sélection des patients ou des usagers ou des élèves versus accueil inconditionnel de tout le monde. Je crois que c'est une très forte caractéristique. Qu'est-ce que ça veut dire un service public universel ? Ça veut dire des services publics pour tous, et pas juste pour les plus modestes. C'est l'idée de services publics qui tiennent toute la société. Or, je pense qu'on court ce risque, on court trois risques d'exclusion. On court le risque de... Et donc, l'universel vient s'opposer à ces trois-là. C'est des services publics pour tous, et pas que pour les plus pauvres. C'est des services publics pour tous, y compris pour les plus éloignés du numérique ou les plus exclus de la société. Et puis, c'est des services publics pour tous, et pas que pour les personnes qui ont la bonne nationalité. C'est ça qu'on promeut par cette vision d'universel. Il nous semble que de le dire, c'est affirmer une vision très singulière des services publics et très forte, très ambitieuse aussi, parce que encore faut-il derrière le réaliser. Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre que c'est dur d'aller au quotidien toucher des publics les plus éloignés, de quel qu'en soit le service public. Mais en tout cas, je pense que toujours est-il pour dire que c'est évident qu'il faut qu'on passe de la réflexion à l'action, et j'en termine vraiment par là. C'est évident qu'il faut qu'on construise des lieux de rassemblement. Cette année, on propose le printemps. On a des projets peut-être encore plus fous pour l'année prochaine ou les années suivantes. Mais quoi qu'il en soit, la priorité... Rien ne se fera si on ne commence pas à s'organiser. Que ce soit dans un syndicat, que ce soit dans une association, que ce soit dans un collectif, notre première conviction, c'est qu'on a besoin de se parler. Et d'ailleurs, je crois avoir mis à la toute petite fin, voilà, parfait, une image que j'aime beaucoup, qu'on a fait dans le printemps des services publics à Lyon l'année dernière. L'idée de... Une métaphore qu'on utilise beaucoup dans le collectif, c'est de se dire que les services publics sont comme un paquebot. Où l'État est comme un paquebot qui fonce droit dans l'iceberg des crises démocratiques, climatiques, sociales. Je ne vous fais pas de dessin. Et en fait, il ne suffit pas de changer le capitaine. Le gouvernail est bloqué de ce paquebot. Vous le changez, ça ne changera pas l'orientation majeure. Il est bloqué par ses mécanismes juridiques, budgétaires, ses orientations, ses modes de fonctionnement, des fois trop hiérarchiques, qui... en oriente très fortement le fonctionnement. On a besoin de chaque agent public et d'une conception, je le disais en introduction, y compris politique de notre action individuelle et de nos capacités d'agir collective pour le faire. Nous, on veut contribuer à notre petite échelle, très modestement, à cet immense projet. Mais en tout cas, on vous invite à d'où que ce soit, y participer. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera réellement à s'organiser, qu'en s'organisant, qu'on arrivera à changer les choses.
Merci beaucoup.
De votre écoute, de vos questions. Je parle trop, mais c'est passionnant de réfléchir sur vos questions.
Donc normalement, cette journée a été enregistrée, mais peut-être que tout le monde ne l'écoute, n'écoute pas les restitutions de nos journées d'études.
C'est très
mais
OK.
Nous, on peut les faire circuler aussi, et c'est très une bien. Manière de faire circuler des injonctions, des encouragements à agir. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à la Commission internationale.
Oui, merci donc la Commission la internationale.
Et... Merci à la bébé.
Oui, bah attends. Oh, c'est elle est impatiente. Bah oui, on n'a pas répété. Merci à la BPI parce que la journée co-réalisée BPI Commission internationale ne serait rien sans la BPI. Et c'est bien parce qu'Éléonore, elle est deux à la fois. Donc ça, c'est quand même assez incroyable comme partenariat. Voilà.
C'est prêt.
Ah, on peut donner rendez-vous dans 2 ans. On en fait tous les 2 ans des journées d'études. Et on ne sait pas encore ce que sera la prochaine journée d'études. Et on ne va pas s'y mettre de suite. Mais on va y réfléchir.
Ben merci à vous. Bonne visite pour ceux qui visitent. Et bon retour aux autres. Et donc rendez-vous sur notre site. Et voilà, différents événements.